Bonsoir Dominique de Talencé.
Bonsoir.
Vous avez passé 10 ans en tant que juge d'instruction au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris. Vous venez de rejoindre la cour d'appel de Versailles et vous décidez de parler, peut-être pour dresser le bilan de ces 10 années que vous avez passées au pôle financier à côté de personnalités comme Eva Joly, Laurent Jouissinski ou Philippe Courroy. Vous tirez... Quel bilan, quels enseignements de ces 10 ans?
Si je pars, c'est parce que, non pas parce que je quitte le pôle financier, mais parce que le pôle financier nous quitte, en quelque sorte. C'est un peu l'histoire d'une défaite et malheureusement d'une mort programmée. Aujourd'hui, les juges financiers, il faut peut-être se rappeler ce que c'était que le pôle financier il y a 10 ans. C'était un grand espoir. Enfin, on allait prendre au sérieux les délits économiques et financiers dont on sait à quel point ils pèsent sur l'économie, et on en a tous les jours le témoignage. Enfin, on allait pouvoir avoir des instruments matériels, juridiques, qui nous permettaient d'aller à la rencontre de ces délits dits complexes, et finalement ils ne le sont pas tant que ça si on veut bien les prendre par le bon bout. Et donc nous étions ce groupe de magistrats plein d'enthousiasme, plein de croyances dans cette justice un peu nouvelle, et on sortait un peu cette justice à la papa qui fait que le vol de bicyclette finalement est très loin derrière nous. On s'attelait effectivement au grand délit. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait cette certitude qu'on allait enfin être dans la répression, ou en tout cas dans la prévention aussi, et dans le suivi des affaires financières économiques qui sont effectivement...
Pourquoi aujourd'hui vous parlez de défaite ?
Pourquoi je parle de défaite ? Parce qu'aujourd'hui le contenu est totalement vidé, c'est-à-dire qu'on a encore l'enveloppe mais on n'a plus l'intérieur, on n'a plus le contenu de ces délits, et que les juges qui malheureusement sont partis d'ailleurs au fur et à mesure déçus par cette politique sont maintenant saisis de petites affaires qui ne regroupent pas, si vous voulez, la vraie délinquance économique et financière qui malheureusement ne trouve pas...
On comprend bien là votre déception, voire votre amertume. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est responsable de cette situation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est une question de budget ? Est-ce que c'est une question d'autorité politique ?
C'est une question de politique pénale. On choisit, si vous voulez, les grandes orientations d'une politique pénale. Bon, aujourd'hui, moi je ne parle que du pôle économique et financier de Paris. Aujourd'hui, le parquet de Paris a décidé que les délits financiers, ça n'existait plus. Donc, on considère qu'il ne faut pas les traiter, ou les traiter en amont, c'est-à-dire par le parquet, qui s'en fait, en quelque sorte, qui s'en réserve.
Mais le parquet, il est lié au pouvoir.
Absolument. Hein,
donc
oui,
là, on est bien dans la politique.
On est dans la politique, sûrement, sans aucun doute. D'ailleurs, écoutez, j'en veux pour seule preuve que... Vous savez, il y a des grandes messes comme ça, tous les ans, de rentrée des tribunaux, et dans un discours de rentrée très intéressant du procureur de la République de Paris, qui fait 3 pages, eh bien, vous avez deux lignes. On parle de tout. On a beaucoup d'autosatisfaction, tant mieux. Mais on parle de deux lignes sur les délits financiers. Je vous les lis parce que ça vaut le coup. L'utilisation en matière d'affaires financières complexes de mesures telles que les perquisitions en enquête préliminaire, c'est-à-dire faites par le parquet, avec autorisation du JLD, permet d'éviter le recours inutile à l'information judiciaire. Et bien voilà, ça c'est extrêmement clair. Les affaires financières complexes ne seront plus jugées, ou en tout cas instruites, par les juges financiers. C'est
alors,
clair.
Il y a un autre élément, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy pendant sa campagne, c'est-à-dire son intention de dépénaliser le monde des affaires. Ça vous inquiète encore plus, j'imagine.
Je crois que, si vous voulez, la dépénalisation, elle est déjà de fait depuis plusieurs années. Donc,
oui, puisque c'est ce que vous venez d'expliquer,
voilà.
Que finalement,
donc,
les enquêtes ne vont pas au bout.
Je crois que ce n'est pas extrêmement nouveau. Je crois que ce qui est plus grave, ce n'est pas tellement la dépénalisation, c'est la déjudiciarisation. On se rend compte qu'effectivement, il y a non seulement une méfiance vis-à-vis du juge pénal, ça, on est bien d'accord, mais en fait, du juge tout court. Et quand on voit effectivement certains propos, quand on entend certains propos du chef de l'État, on est tout à fait inquiet par la vision qu'il a et le mépris d'une certaine façon affichée qu'il peut avoir sur la magistrature. Donc c'est plus la déjudiciarisation et aussi son pendant, évidemment, sur les affaires économiques et financières, la dépénalisation qui est en cause.
Alors, on voit bien le tableau que vous dressez. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, pourquoi la délinquance financière est, à vos yeux, aussi grave que la délinquance tout court, voire plus grave, et ce qu'elle pèse aujourd'hui dans l'économie nationale?
Oui, je ne veux pas vous accabler de chiffres. Bon, j'ai simplement en tête un chiffre du Conseil des prélèvements obligatoires de 2007 qui dit que la fraude fiscale et sociale est évaluée en France entre 20 et 40 milliards d'euros. C'est vous dire l'ampleur de cette fraude. Alors c'est la fraude effectivement en général.
On sait vous aussi, pouvez répéter le chiffre.
Oui, entre 20 et 40 milliards d'euros en France. Oui, c'est étonnant. Vous voyez, ça n'a pas été tellement relayé par les médias. Bien, on sait que 5% du commerce mondial est issu est fait de la contrefaçon, et c'est pas simplement de la contrefaçon dans les marques de luxe, la contrefaçon des médicaments, la contrefaçon des pièces détachées. Vous voyez ce que ça peut emporter au niveau des risques en tout genre. On sait que la corruption est quelque chose qui est tout à fait répandu et pas simplement dans les républiques panadières qu'on veut bien pointer du doigt. Donc on sait tout ça. On sait, écoutez, l'actualité
la France d'ailleurs n'est d'ailleurs pas très bien placée dans le classement de la corruption.
Oui, on est 18e l'indice de perception de la corruption, qui est un indice de perception, encore une fois, on est 18e. Alors est-ce qu'on est content d'être derrière effectivement la Suisse? Est-ce qu'on est content d'être derrière le Luxembourg? Est-ce qu'on est content d'être derrière Hong Kong? Moi, je ne suis pas extrêmement satisfait.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les cols blancs du business ont gagné devant les cols blancs des magistrats?
Je crois que, si vous voulez, ce qui est un peu choquant, c'est qu'on a vraiment deux discours. Tolérance zéro pour les délits de droit commun et impunité maximum pour les délits dits cols blancs. Vous sentez bien, comme moi, comme tout citoyen, une espèce d'arrogance de cet argent qui est l'obsession universelle. Bien, l'arrogance, elle vient de l'impunité. Et cette arrogance, elle est insupportable, surtout quand on sait qu'effectivement, la moitié des Français gagnent moins de 1500 euros par mois, que les difficultés sont généralisées sur toute une frange de la population. Donc je crois qu'effectivement, il serait quand même grand temps de s'intéresser à ces délits. Surtout que, si vous voulez, les institutions internationales nous donnent l'exemple. L'OCDE, le GAFI, le Conseil de l'Europe ne cessent de dire aux États, je vous en prie, prenez les mesures.
Vous êtes amer?
Non, je ne suis pas amère, je suis combative.
Mais ce combat, maintenant, vous allez le mener différemment.
Voilà, je crois que là où on est, on peut faire quelque chose.
Merci beaucoup.